Bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute d'Alter Echo après une semaine de sevrage, une semaine de relâche. Olivier au micro. Comme tous les mercredis soirs, Alter Echo, c'est à 22h, de 22 à 23. La rediffusion a lieu tous les vendredis à 14h. Et vous pouvez également retrouver Alter Echo sur son site internet à l'adresse www.multimania.com/alterecho en un seul mot et avec CH. Cette semaine, deux sujets seulement, deux grandes interviews, l'une sur un sujet très local, l'autre à propos d'un problème presque planétaire. Pour le côté local, nous irons dans un squat artistique à Ixelles, dont les occupants risquent l'expulsion dans quelques jours. Nous verrons les mécanismes pervers qui sont à l'œuvre dans les problèmes urbains à Bruxelles. Sur le plan international, c'est de la Yougoslavie et des 10 ans de crise dans les Balkans que nous parlerons avec Catherine Samary, journaliste au Monde diplomatique. Elle analysera les causes profondes du conflit et expliquera ses positions tout en nuances. Un jet de pierre de l'avenue de la Toison d'Or à Ixelles, tout un îlot part en décrépitude. Une grosse multinationale anglaise, Heron City, l'avait racheté il y a plusieurs années dans le but de construire à cet endroit un grand complexe commercial et récréatif haut de gamme. Comme souvent, les spéculateurs immobiliers attendaient que les immeubles pourrissent, en leur donnant d'ailleurs un petit coup de main au passage, pour recevoir l'autorisation de les abattre et de construire à la place de l'immobilier neuf réputé rentable. C'était sans compter avec les aléas politiques d'une part et d'autre part avec la volonté d'une bande de jeunes de maintenir le logement accessible dans le quartier. D'une part, Ixelles a connu l'année dernière un changement de majorité, alors que la bande à Yves de Jongdaardoi était très favorable au projet de prestige. La nouvelle majorité arc-en-ciel ne lui a pas donné son aval et Heron City a dès lors dû ranger le projet au placard et tente aujourd'hui de revendre l'îlot. D'autre part, deux immeubles de l'îlot sont squattés depuis l'automne de l'année dernière. À la rue des Drapiers, un squat s'est ouvert pour revendiquer le maintien des logements dans le quartier et l'installation d'une agence immobilière sociale pour les gérer et les rendre accessibles au plus grand nombre. Rue des Chevaliers, ce sont des artistes en mal d'espace de création et de répétition qui occupent une immense maison cossue, reconvertie en bureau avant de se retrouver abandonnée. À partir du 3 juin prochain, les occupants de la rue des Chevaliers seront officiellement expulsables. C'était donc l'occasion d'aller à leur rencontre et pour leur laisser expliquer la raison de leur occupation et les problèmes qu'ils rencontrent. Jérémy Mosseret, l'un des occupants de la rue des Chevaliers, nous présente le projet.
Donc c'est 11 rue des Chevaliers à Ixelles. C'est un bâtiment qui est vide depuis plus de 6 ans. Et nous l'avons ouvert en octobre 2000, donc ça fait plus ou moins 8 mois, un truc comme ça. On s'est installé une dizaine au début. En fait, bon, la maison comporte des ateliers et des lieux de vie. Donc il y a maintenant on est plus ou moins une quinzaine à vivre. Il y a une salle de danse disponible, il y a une salle de cirque, il y a plusieurs ateliers, il y a des plasticiens qui travaillent, il y a de la musique, il y a des groupes de musique Orange Casu, il y a Kroupouk, il y a plusieurs groupes différents, il y a plusieurs compagnies de théâtre différentes qui travaillent ici aussi, des peintres. Un peu de tout quoi.
Donc là, en fait, on est explicitement dans un squat artistique et culturel qui mêle lieu de vie et lieu de travail pour les artistes.
Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. En gros, c'est ça.
Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici, par exemple?
Oui, bon, alors pourquoi on est là? C'est parce que on s'est pas mal d'entre nous se sont retrouvés un peu à la rue l'année passée, enfin au début de cette année-ci. On avait tous besoin d'un lieu de travail pour faire nos activités, c'est-à-dire musique, etc. Et alors aussi, certains d'entre nous venaient de l'étranger et avaient besoin d'un logement parce qu'ils étaient étudiants à l'école du cirque ou à l'espace catastrophe et que bon, ils n'avaient pas les moyens de se payer un appartement en plus des cours. Donc eux aussi ont cherché un logement. On s'est rencontrés et on a ouvert ici. C'est comme ça que ça a commencé en gros. Donc ça a regroupé plusieurs gens, mais vraiment de plusieurs disciplines quoi. Et voilà. C'est la démarche de base.
Là, on se trouve un peu dans des problèmes qui sont spécifiques aux artistes. Il n'y a pas que le statut d'artiste, il y a aussi le fait qu'ils exercent des activités assez peu rentables et qui prennent beaucoup d'espace et d'infrastructures pour exercer leur art.
Oui, c'est ça. C'est un gros problème. C'est que, bon, par exemple, un groupe de musique qui a besoin de répéter, il lui faut un local plus ou moins sonorisé pour pas déranger les voisins, etc. Que louer des locaux pour amener le matériel, ça coûte très cher. En plus, à chaque répète, amener du matériel, le retirer, etc. Donc, c'est vraiment une perte de temps, d'énergie et d'argent. Et c'est pour ça que ce genre de lieu est créé aussi. C'est surtout pour ça d'ailleurs. Par exemple, les compagnies de théâtre aussi ont besoin de grands espaces pour travailler. Le cirque a besoin de hauteur, a besoin de choses comme ça. Et c'est des salles qui coûtent généralement assez cher quand on n'a pas de subvention de l'État, quoi. Et bon, comme ici, la plupart des gens ne sont pas encore à un niveau pour avoir des subventions, ben, c'est vraiment une alternative à ce genre d'endroit, quoi.
On se trouve en plein en fait dans un problème d'accès à la culture, pas nécessairement pour le public, mais aussi, mais surtout pour les créateurs, quoi.
Oui, tout à fait, c'est ça. Et donc, le problème de ça, c'est que souvent, après, des artistes se retrouvent avec beaucoup d'envie, beaucoup de volonté, mais n'ont pas les moyens d'exercer leur art. Et voilà.
Et comment ça se fait qu'un immeuble si vaste, avec des espaces énormes, se trouve vide pendant tant de temps, alors qu'il y a plein de gens qui non seulement n'ont pas de logement, mais aussi qui manquent d'espace pour tout ce qu'ils voudraient faire. Tout ça est là, ça appartient à quelqu'un, donc on ne peut pas y entrer. Enfin, comment c'est possible, quoi?
Bah, c'est le gros problème de Bruxelles, hein. Il y a même un mot qui a été inventé, c'est la bruxellisation, ça veut tout dire. C'est la spéculation immobilière, c'est laisser pourrir les bâtiments, faire des trous dans les toitures. Après, le bâtiment est pourri, est insalubre, et on a le permis pour le démolir, et puis on construit autre chose dessus. Et c'est vraiment bien dommage, parce qu'ici, c'est vraiment des très très belles maisons, une très belle architecture, enfin vraiment, c'est un très beau patrimoine à conserver. Et malheureusement, voilà, les promoteurs sont au-dessus de ça et ont d'autres buts.
En l'occurrence, le promoteur, c'est un gros groupe anglais, c'est Heron City. Quel est ou quel était son projet pour le quartier ici? Parce qu'il s'agit en fait de tout un îlot juste à côté de l'avenue de la Toison d'Or.
Eh ben, son projet ici, c'était de raser les deux tiers de l'îlot. Et de construire un énorme centre commercial avec cinéma, piscine, commerce, etc. Alors que tout le monde sait bien qu'à la Toison d'Or, 20 mètres plus haut, il y a déjà un cinéma avec une vingtaine de salles. Enfin, il y a déjà tout ça, quoi. Donc, c'est vraiment pas un besoin du tout pour le quartier. Voilà, c'était vraiment un projet qui était déjà très mal parti pour ça.
Apparemment, avec la majorité précédente à XL, qui était donc on se trouve sur le territoire d'XL, qui était PRL, les contacts étaient assez bons. Donc vous, ça vous posait problème à l'époque, j'imagine?
Ouais, la majorité changeante a été un petit coup de bol quand même pour ça. Enfin, en tout cas pour le refus du projet, ça c'est sûr que ça a aidé. Mais ça n'empêche pas que la majorité changeante, donc maintenant Arc-en-Ciel, va quand même en arriver à nous expulser pour quelconque arrangement avec le propriétaire dont on ne sait pas grand-chose.
Mais pourtant, le projet initial auquel Heron City destinait l'îlot est abandonné. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes de toute façon expulsé quand même?
Mais c'est la grande question et on se la pose. On sait qu'il y a un projet de réaffectation des bâtiments, d'une partie du bâtiment de l'îlot, qui serait, ces maisons seraient tenues par des AIS, donc des agences immobilières sociales. Mais c'est un projet qui est en route, donc ce n'est pas encore fait, c'est pas encore, y a rien, je pense qu'il n'y a pas encore vraiment de choses dites clairement sur papier. Mais cette maison ne peut pas rentrer dans le cadre de ce projet-là parce que c'est des anciens bureaux, parce que soi-disant c'est plus insalubre, etc., etc. Que ça rentre moins dans le cadre d'appartements type. Et c'est là que on pense que là est une partie du problème. Bon, il y a une deuxième partie un peu plus obscure, on ne sait pas trop pourquoi vraiment, mais on pense que déjà cette partie-là joue beaucoup. Alors que bon, ici c'est quand même salubre. Enfin, je veux dire, il y a quand même moyen de se laver, de manger, de vivre. La preuve, bon, nous on vit dedans, hein. Il n'y a pas de problème. On n'est pas non plus, on vit pas dans la crasse, quoi.
Vous n'êtes pas les seuls à squatter l'îlot et à protester contre cet état de fait. Il y a aussi le squat de la rue des Drapiers. Est-ce que tu penses que vous, les squatteurs, aussi bien de la rue des Drapiers que de la rue des Chevaliers,
ont créé une espèce de prise de conscience, disons au niveau politique, chez le propriétaire, ça m'étonnerait, mais qui a fait que maintenant on parle quand même de cette agence immobilière sociale, alors qu'avant l'idée du projet était acquise.
Ouais, disons qu'il y a sûrement eu des remous, mais la rue des Drapiers, c'est très très différent de chez nous. Déjà, ils ne se considèrent pas comme squat, parce que bon, c'est vrai qu'en Belgique, la connotation squat a assez mauvaise.
Comment est-ce qu'on pourrait décrire aujourd'hui un squat dans la mouvance qui est la vôtre par rapport au cliché qu'en donnent les médias d'un espèce d'endroit à moitié en chantier où des types se retrouvent pour se piquer à l'héros?
Mais comment on pourrait le décrire? Mais c'est que c'est vraiment l'opposé de ça. C'est que c'est une maison comme une autre. Simplement, il y a un choix de vie un peu différent, c'est sûr. C'est sûr qu'on n'a pas le grand confort total. Mais il y a une semi-collectivité qui fonctionne à la maison. Mais bon, c'est ça, c'est un endroit constructif. Voilà. Donc, mais pour continuer par rapport à la rue des Drapiers, la rue des Chevaliers, la rue des Drapiers, ça a été directement un contexte très différent. Ils ont tout de suite appuyé, ils ont tout de suite pris des contacts avec la commune, tout de suite appuyé la défense du patrimoine, etc. Tandis que nous, ben, on est moins expérimentés aussi dans ce genre de démarche. C'est la première fois pour beaucoup de gens qu'ils participent à l'ouverture d'un squat comme celui-ci.
Vous considérez comme moins politisé ou pas?
Oui, beaucoup moins politisé, oui, bien sûr, ça c'est sûr. Mais surtout, on s'est plus cru un peu plus tranquille, peut-être, parce qu'ils étaient là. Et donc on a fait moins de démarches, mais on n'en pensait pas moins. Hein. C'était, voilà, on était là quand même pour défendre quelque chose. Et là, depuis un mois, on essaie de faire bouger les choses un peu, de prendre des contacts, etc. Mais bon, c'est pas évident.
Finalement, vous vous sentez comme des gêneurs. Enfin, je suppose que vis-à-vis du propriétaire, ça me paraît évident. Vis-à-vis du monde politique, c'est pas nécessairement le cas, mais c'est ma question. Et vis-à-vis des habitants du quartier, comment ça se passe aussi?
Vis-à-vis des habitants du quartier, je pense que ça se passe bien. Bon, mais il y a eu quelques petites plaintes pour du bruit, mais bon, parce que voilà, mais on a toujours essayé de faire de notre mieux pour le moindre problème. On essaie d'aller au-devant du problème et essayer de régler ça, parce que bon, ça c'est sûr que un grand bâtiment comme celui-ci, il y a de la vie, il y a du passage, il y a des gens qui toquent aux fenêtres, aux portes, qui sonnent, ça bouge quoi.
Mais
Hein.
vous avez tenté de nouer des contacts avec le quartier?
Oui, on a fait une journée porte ouverte, on a invité le quartier à venir voir les ateliers, on a ouvert les ateliers, on a fait un. Oui, c'est ça, on a ouvert la maison pour la faire visiter aux gens. Donc ça, on a essayé, bien sûr.
Quelles ont été les réactions?
Assez positive, mais on ne sait pas vraiment combien de personnes du quartier sont venues. On a eu beaucoup de monde, mais on ne sait pas vraiment si c'était des gens du quartier ou de l'extérieur. Mais la grosse publicité avait été faite dans le quartier. Hein. C'était quand même le but de la journée porte ouverte. Sinon,
Et le politique.
le politique n'est pas venu. On leur a envoyé les papiers, ils ont fait ouais, super, c'est super intéressant, mais bon, ils sont pas venus. Mais ça, voilà, c'est normal, ça, on s'en
Et
doutait.
comment vous vous sentez face à eux? Parce que quelque part, le projet est tout à fait cohérent et ceux qui se disent sociaux devraient apprécier ça, mais visiblement, ça ne se traduit pas tellement dans les faits.
Ouais, bah oui. Mais bon, je crois que c'est toujours le même problème, hein, par rapport à la politique. Ils ont des obligations, machin, des trucs comme ça. Enfin, je crois qu'on est vraiment dans une autre réalité aussi que leur réalité. Je pense que on est dans la même réalité pour le concret, c'est-à-dire que nous, on tient le bâtiment, on est prêt à le tenir en bon père de famille, à prendre des assurances, machin, à essayer de que ça rentre dans la réalité de tout le monde, mais notre réalité est quand même différente de.
Oui, en fait, vous avez fait des propositions constructives aux
C'est ça, ouais.
propriétaires. C'est pas uniquement une logique de rupture et on
Non,
occupe
c'est
votre
ça.
truc et démerdez-vous. Quelles sont les propositions que vous leur avez faites?
Mais déjà, on a proposé de pouvoir signer un bail précaire pour que la responsabilité en cas de problème ici revienne sur nous et pas sur le propriétaire.
C'est quoi exactement en droit un bail précaire?
Mais ça se passe un peu comme un bail, sauf que c'est un truc plus fait à l'amiable et au feeling, mais c'est quand même écrit et c'est pour des plus courtes durées. Par exemple, on propose de rester un an et qu'après, il peut nous virer quand il veut, seulement quand il nous amène un papier 2 mois avant, etc. Et on discute et machin.
Mais et ça, surtout, ça nous responsabilise par rapport au bâtiment. Donc, on est obligé, on se porte garant de l'électricité, des machins, de tout ça, des trucs, toutes des choses comme ça qui font qu'on tient le bâtiment en état. Aussi, retaper le bâtiment, les petits problèmes de toiture. C'est sûr, on ne sait pas refaire la toiture entière, hein, mais je veux dire, on est prêt à, s'il y a le moindre problème, ben, essayer nous d'abord de régler ça.
Mais c'est peut-être ennuyeux toutes ces propositions constructives pour quelqu'un qui veut laisser sciemment pourrir un bâtiment. C'est peut-être pour ça que vous l'emmerdez aussi le propriétaire.
Voilà, ça c'est sûr, c'est sûr. Que, bon, ça, il y a un grand exemple, c'est que rue d'Estassard, il y a trois maisons qui ont été, qui sont vraiment des chancres, mais donc vraiment en très 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 mauvais état. Il y en a deux qui ont brûlé, on ne sait comment. Il y a aussi, ça c'est assez important, au centre de l'îlot, il y a un concierge qui est payé par Aeron City pour garder l'îlot, soi-disant, mais en dessous de cette couverture-là, en fait, le concierge s'occupe à détruire les bâtiments. Donc, c'est-à-dire, il arrache les radiateurs, il arrache quelques cloisons, il retire les câbles des murs, des faux plafonds, des bureaux, il arrache les câbles, et il fait son petit commerce, quoi, avec ça. Mais bon, tout ça, enfin, voilà, quoi. Hein, c'est
Sous couvert de protéger le truc.
voilà, sous couvert de protéger le truc, quoi. Donc, et il a plus ou moins, il a plus ou moins démoli pas mal de choses dans les bâtiments. Du haut de la rue, et nous, cette maison-ci a commencé à peine à être touchée. Et donc, on l'a prise juste à temps avant qu'il puisse commencer vraiment à faire des gros travaux de destruction dedans. Il a eu le temps de commencer. Bon, les radiateurs ne vont quand même plus. Il y a quand même 2-3 radiateurs arrachés, mais il restait encore 2-3 WC en fonction, plus ou moins. Et voilà.
Ce qui n'est pas clair par rapport à la différence entre ici les Chevaliers et le squat rue des Drapiers, c'est que ceux de la rue des Drapiers se montrent en fait plus revendicatifs, ont une action plus politique qui est susceptible de gêner un peu plus les autorités. Eux, ils ont eu un avis d'expulsion plus ou moins avorté et finalement, en définitive, on leur fout la paix, en tout cas provisoirement. Tandis que vous êtes là juste. Dans une optique, on veut gêner personne, on gère ça en bon père de famille, on est là juste pour les ateliers, l'espace, etc. Et c'est finalement vous qui allez vous faire virer. Comment expliquer cette différence?
Mais déjà, la rue des Drapiers, comme j'explique, c'était vraiment très différent parce qu'ils sont impliqués tout le temps. Donc, comme eux, c'est vraiment leur finalité. Déjà, il faut retirer le mot squat de la rue des Drapiers parce que c'est vraiment. Ça montre vraiment bien la différence entre les deux. C'est que eux, c'est vraiment plus des appartements. Donc, ils ont chacun des appartements. Ils revendiquent le droit au logement. Et c'est leur finalité. C'est leur travail. Enfin, c'est vraiment leur finalité de ça. Et nous, c'était plus un outil. Donc, on s'est moins bougé par rapport à toutes ces démarches-là. Et c'est sûr que, bon, ben, à partir du moment où bon, ben, la presse passe, qu'on commence à se faire connaître, etc., comme ça s'est passé à la rue des Drapiers, ils ont commencé à bouger, à faire des pétitions, etc., ben, c'est sûr qu'il y a plus de chances de survie, ça c'est évident. Ça c'était nous une autre démarche de ne pas faire grand-chose parce qu'on n'avait pas trop le temps, parce qu'on a tous nos activités, parce que bon, moi je travaille dans la musique et dans le théâtre, il y a d'autres gens qui travaillent dans la danse, machin, et donc on a tous des trucs à faire, il y en a qui sont encore étudiants, donc on n'a pas un temps plein à passer à la défense du lieu vraiment. Mais bon, on fait un minimum quoi, parce qu'on veut garder ce lieu quoi.
Mais vous êtes à une rue d'écart et vous avez quand même des projets assez similaires, avec des nuances. Pourquoi est-ce que vous vous mettez pas ensemble et qu'il n'y a pas une défense commune pour faire noyau face à ceux qui voudraient vous déloger?
C'est une bonne question. C'est une très bonne question et très difficile à répondre. Au début, on a commencé comme ça, je pense. Et puis petit à petit, ça s'est scindé parce que. On sentait pour les démarches et les idéaux étaient un peu différents sur certains points. Je pense qu'on avait besoin d'un peu plus de liberté, je pense. Et surtout, le projet de rentrer dans une agence immobilière sociale qui, nous, ne nous correspond pas du tout. Parce que, bon, c'est pas du tout notre projet de rentrer là-dedans. On a quand même aussi une certaine envie d'autogestion, une certaine envie d'avoir des lieux de travail, et c'est ce genre de choses qui ne peuvent pas rentrer dans une agence immobilière sociale, ou sinon il faut des assurances énormes, il faut des lois, il faut des portes coupe-feu pour la salle de danse, il faut investir des millions. Et ça, c'est aussi un gros problème. C'est que souvent, dans la culture, on investit des millions à refaire les bâtiments, et puis il n'y a plus grand-chose pour faire tourner le bâtiment, ou il n'y a plus grand-chose pour payer les artistes à venir, qui viennent utiliser le bâtiment. Ça aussi, c'est un gros problème, mais ça c'est un peu généralisé en France, beaucoup aussi à Toulouse, il y a eu énormément ça. Et donc, enfin, moi je préfère utiliser un bâtiment un petit peu insalubre, mais un minimum où on sait qu'on peut quand même y être en sécurité et où on le gère en bon père de famille et mettre l'énergie à vraiment la création dans le lieu, qu'à mettre l'énergie à refaire le bâtiment. Et puis quand le bâtiment est refait, bon, on ne veut pas non plus travailler dans une cuisine, quoi, dans une cuisine aseptisée, c'est pas intéressant, quoi. Bon.
Tu parlais tout à l'heure de la presse qui était apparemment descendue en masse au drapier. Vous aussi, vous avez quand même eu des contacts avec la presse. Comment ça se passe en général? D'abord, est-ce que la presse s'intéresse à votre cas et éventuellement aussi au projet Héron et qu'est-ce qu'elle en dit?
Je lis pas beaucoup la presse, déjà. C'est pas trop mon truc. Mais là, c'est bien soutenu, je pense, le drapier. Pour nous, c'est assez nouveau. Ça fait seulement quelques. Bon, oui, la TV Bruxelles est venue plusieurs fois. Mais TV Bruxelles a suivi le procès et un peu toute cette démarche-là. Mais sinon, vraiment pour la défense du lieu, ça commence seulement un peu à bouger à ce niveau-là. Et on attend toujours les articles, donc on sait pas vraiment quels sont les avis. De la presse à cet égard.
Pourtant, il y a un peu urgence parce que l'avis d'expulsion, c'est pour le tout début du mois de juin. En tout cas, à partir de cette date-là, vous êtes expulsable. Et je suppose que l'expulsion effective risque de ne pas trop tarder. Face à cette échéance assez proche, quels sont vos projets? D'abord, est-ce que vous êtes sûr de vous faire expulser?
Il y a beaucoup de chance. Oui, on pense qu'il y a quand même 90% de chance, 95% de chance qu'on se fasse expulser.
Tout d'abord, comment ça se passe concrètement une expulsion?
Une expulsion, eh ben, la police vient, elle rentre dans le bâtiment, elle met les occupants dehors avec leurs affaires, et puis elle ferme le bâtiment.
Et tout dépend des occupants, si ça se passe calmement ou pas.
Voilà, ça c'est ça, c'est ça. Bon, c'est sûr qu'ici on va pas commencer à foutre le feu au bâtiment, etc. Mais on va pas se laisser faire non plus, ça c'est sûr. C'est sûr que on a quand même une revendication du lieu, il y a quand même une énergie commune dans ce lieu et qu'on va pas, on va pas partir comme ça.
Et avant d'en arriver là, qu'est-ce que vous allez faire pour essayer que cette expulsion n'ait pas lieu, justement?
Mais donc c'est ça, donc on essaye encore de recontacter un peu la commune, voir comment ça se passe. On a envoyé une lettre au propriétaire en demandant un nouveau lieu, en lui expliquant que si il nous proposait un autre lieu pour notre projet, on était prêt à sortir du bâtiment sans faire de scandale, on va dire. Donc maintenant ça à voir quoi. Même il y a peu de chances, je pense, qu'ils nous donnent un autre bâtiment. Hein. Bon.
En même temps, apparemment, aujourd'hui, le projet de Heron City, c'est de vendre plutôt que de faire cette idée de complexe commercial qui a été abandonné. Dans cette optique-là, ce serait peut-être bien pour eux si vous gardiez ce bâtiment-ci ou un autre qui vous proposerait en bon père de famille, comme tu dis, pour un peu préserver ça de son destin de chancre.
Oui, bien sûr, c'est ça. Je sais pas encore si Heron City, je sais pas vraiment quel est le projet d'Heron City maintenant que le gros projet de centre commercial est tombé à l'eau. Je sais pas, je sais pas trop leur nouveau projet. Je sais pas si c'est vraiment vendre ou bien si c'est réaménager. Je suis plus trop au courant des dernières informations qui viennent de tomber. Mais en tout cas, c'est sûr que si nous on part, d'autres gens vont venir à notre place et peut-être des gens beaucoup plus mal intentionnés et que les bâtiments vont peut-être être encore plus détruits. Enfin. Bon, il y a eu des problèmes comme ça rue de la Toison d'Or. Il y a des gens qui ont investi des lieux comme ça, mais c'était plus plus à l'arrache, on va dire quoi, plus beaucoup plus sauvage. C'était plus repère de tox, etc. Et bon, il y a eu de la baston, il y a eu des coups de couteau, il y a eu des machins, il y a eu des cambriolages dans une bijouterie qui était juste à côté. Enfin, c'est une grosse preuve comme quoi il faut laisser ces bâtiments occupés, mais avec des gens responsables. Et ça, bon, j'ai l'impression que, je sais pas, c'est hors de leur portée, je sais pas.
Ouais, ça passe pas, quoi.
Ça passe pas, non.
Si vous vous retrouvez effectivement à la rue, les 15 qui habitent ici, plus finalement tous les autres gens qui fréquentent l'endroit, qu'est-ce qui va se passer?
Ce qui va se passer, c'est on est quand même assez positif, hein. On espère quand même que la commune va se bouger un peu avec nous pour pouvoir nous trouver une alternative, au mieux trouver un nouveau lieu. Et sinon, bah, nous, on ira à la recherche d'un nouveau lieu.
C'est un peu un jeu du chat et de la souris, non?
Voilà, c'est ça, ouais, c'est un peu ça, quoi.
Tu parles de réouvrir un lieu. Est-ce que c'est difficile de trouver un endroit qui présente suffisamment d'espace et suffisamment de place pour tous les gens qui veulent y être et leurs activités, et qui en même temps est tout à fait habitable, encore en relativement bon état?
Mais déjà, je veux pas parler de réouvrir un lieu. Je suis pas encore. Pour l'instant, il y a ce lieu-ci, on défend ici, et je suis pas prêt à partir d'ici. Maintenant, je sais concrètement que ça se passe généralement un peu différemment, mais je suis vraiment pas prêt à partir d'ici. Donc, ça veut pas dire que dans 2 semaines, je suis dehors et qu'on est dehors, quoi. C'est sûr qu'on va, on va tout faire pour pouvoir rester d'abord. Ça, il faut que ce soit clair là-dessus. Nous, on veut rester. Après, ouvrir un lieu, bah, c'est bon, c'est de l'énergie, c'est repérer des bâtiments, c'est.
Mais on en trouve?
Oui, ça, il n'y a pas de problème. À Bruxelles, il y en a. Hein. Bon, il y en a des plus pourris que les autres, mais il y en a un bon paquet. Hein.
Pourtant, théoriquement, il y a une taxe sur les lieux qui restent vides, qui est censée inciter les propriétaires soit à vendre, soit à occuper les lieux, soit à les faire occuper. Comment est-ce que tu expliques que dans un cas comme ceci, où la taxe ne doit pas être minime puisque l'espace est grand, que cette taxe ne soit absolument apparemment pas dissuasive?
Mais pour les gros propriétaires comme celui-ci, je pense que c'est vraiment pas dissuasif parce que de toute façon, ils parlent en tant que millions et peut-être milliards et que les taxes sont minimes par rapport à ce genre de budget. Donc c'est des petits problèmes de rien du tout. Je pense pas que vraiment que ça soit un problème. Mais surtout, je pense aussi que la taxe n'est pas vraiment appliquée dans tous les cas. Je pense que c'est dans la loi, il y a la taxe à faire appliquer, mais j'ai entendu dire qu'elle n'était pas toujours appliquée, qu'il y avait parfois des histoires comme bon, allez, tu me laisses ça, moi je te laisse ça, machin, et que la taxe n'était pas réellement appliquée à tous les bâtiments vides, quoi.
Mais en clair, ça dissuade surtout les propriétaires individuels, les personnes
C'est
physiques,
ça,
quoi.
ouais, c'est ça. En fait, je pense que c'est plus fait pour les petits propriétaires, ceux qui ont deux, trois bâtiments vides, pour les inciter. Mais pour les grands propriétaires comme celui-ci, je pense qu'ils sont même pas touchés par ce genre de taxes.
Si vous voulez soutenir les habitants de la rue des Chevaliers et éventuellement les aider à résister à leur expulsion, si elle a lieu, n'importe quel jour à partir du 3 juin prochain, vous pouvez appeler Jérémy au 0479 52 0082. Il vous fournira tous les renseignements nécessaires. Son numéro, c'est le 0479 52 0082.
Tout est permis, tout est permis, tout est permis.
Voilà 10 ans que l'ex-Yougoslavie n'en finit pas de se désintégrer dans le sang et les purifications ethniques, et on n'en voit même pas encore le bout. Selon toute vraisemblance, le prochain épisode devrait se dérouler en Macédoine, et ça risque bien de ne pas encore être l'épilogue. Pour ce sinistre 10e anniversaire, j'ai posé quelques questions à Catherine Samary, journaliste et chercheuse spécialisée dans les pays de l'Est et qui a couvert les crises balkaniques pour Le Monde diplomatique. Elle analyse les causes profondes et historiques qui ont mené à cette interminable série de conflits, comme le résultat de tensions, d'une part entre des optiques progressistes et libérales, et d'autre part entre les forces fédéralistes et les velléités centrifuges. Elle explique également sa position du ni-ni, ni pour les interventions sanglantes de l'OTAN, ni pour les politiques désastreuses et meurtrières de Milosevic. Des positions tout en nuances, donc, dont de nombreux politiciens et journalistes de chez nous pourraient prendre de la graine. En fait, vous analysez la catastrophe yougoslave qui dure depuis 10 ans à travers un prisme politico-économique, comme finalement la conjonction d'une évolution qui est propre à la Yougoslavie et qui est locale, et d'une évolution finalement mondiale qui touche le monde entier. Pour vous, dans l'évolution locale, c'est la période de 68-71 qui a été une période charnière. En quoi exactement?
Disons que le système yougoslave titiste était porteur de toute une série de progrès sur le plan économique et national, mais aussi de beaucoup de contradictions, et que les acteurs eux-mêmes, je dirais, c'est-à-dire les jeunes, les travailleurs, les syndicalistes, s'étaient mobilisés dans les années 68 face aux différentes tentatives de réforme, de façon critique. Avec fondamentalement des volontés de réponse en termes d'un socialisme démocratique, pluraliste, anti-bureaucratique, qui soit en même temps solidaire, c'est-à-dire qui se posait le problème de la réduction des écarts de développement entre républiques, entre entreprises, et donc qui se posait à la fois des problèmes de démocratie et de développement économique. Et ceci a été réprimé. Alors, c'est arrivé en même temps qu'une autre logique qui était portée par le système, qui était au contraire de démanteler les solidarités dans un sens à la fois nationaliste au lieu d'être internationaliste, et sur le plan économique, creusant les écarts entre riches et pauvres. Et supprimant toutes les logiques de redistribution solidaire, de réduction des inégalités au profit du chacun pour soi. Et donc les républiques riches pour elles-mêmes gardant leur devise, c'était notamment porté par le mouvement croate de 71. Et le régime de Tito a répondu, comme dans chacune des phases antérieures, par une combinaison de répression et de concession. Ne donnant aucune cohérence. Répression de tous les côtés. On a réprimé aussi bien la gauche que la droite, les libéraux, que ceux qui se réclamaient du socialisme autogestionnaire, etc. Et ce faisant, on a réprimé les acteurs les plus mobilisés, les plus motivés, disons, pour trouver des solutions progressistes aux problèmes qui se posaient. Les problèmes, ils s'en posaient, évidemment. Et d'un autre côté, les concessions qui ont été faites d'en haut ont essayé de répondre aux deux côtés, mais donc de façon contradictoire. C'est-à-dire, du côté des revendications de la gauche socialiste, on a démantelé les banques où des fonds commençaient à s'accumuler d'une façon non contrôlée. On a introduit un système d'autogestion. De planification autogestionnaire qui était revendiquée par la gauche sous des formes de contrats. On a renforcé les droits des unités de base de l'autogestion des travailleurs, mais en même temps, on a accentué, pour répondre aux revendications de l'autre côté, c'est-à-dire de plus de décentralisation économique pour les républiques riches, on a accentué l'autonomie de gestion, par exemple, des devises, qui était revendiquée par le printemps croate, et finalement une logique de confédéralisation où ce qui l'emportait, c'est non pas l'association et la solidarité au travers d'une démocratie pluraliste, mais une répression et de plus en plus de nationalisme finalement. La décentralisation va prendre un cours très grave parce que ça va aggraver les gaspillages, les inégalités, et en même temps va se greffer là-dessus le contexte international. Effectivement, il y a dans la décennie 80 une décennie de dette, puisque la dette extérieure est catalysée par les deux crises du pétrole des années 70 plus la hausse des taux d'intérêt en 1980. Donc 20 milliards de dollars de dette, et là se greffe la politique classique du Fonds monétaire international, qui est malheureusement universellement désastreuse, qui ne s'applique pas d'ailleurs, mais qui exerce ses pressions pour essayer de résoudre les problèmes de la dette, non pas en mobilisant les autogestionnaires et la population, mais en démantelant au contraire tout droit d'autogestion au profit d'une logique marchande. Et en proposant comme solution les privatisations. Il va y avoir des résistances à ça, qui vont se traduire en fait par des incohérences croissantes, du chacun pour soi, une hyperinflation et du chômage. Donc absolument pas de résolution de la crise, de la dette, et du coup une désagrégation du système yougoslave sur des bases, y compris ethniques, le parti unique. Et débouchant sur une multiplicité de partis nationaux dans chacune des républiques, où, dont les bureaucrates et la bureaucratie va se porter, y compris en avant pour adopter les logiques libérales en vogue dans les années ensuite 90, mais avec le problème de savoir quel État allait pouvoir privatiser. Donc il y a le contexte de la construction de l'Union européenne et de la globalisation libérale qui aggrave les éléments de désagrégation en poussant les parties les plus riches de cet espace yougoslave à se dissocier du bateau qui coule et en même temps en ne permettant pas de mobiliser les acteurs autogestionnaires dans une logique de solution autogestionnaire de la crise solidaire. Voilà.
En 1989 est arrivé au pouvoir Markovitch. Certains y voyaient une dernière chance, d'autres une thérapie de choc. Est-ce que ça aurait pu être une dernière chance finalement, ou bien ça a été le coup de grâce plutôt?
Une combinaison évidemment des deux, c'est pourquoi il y a les deux lectures qui ont des éléments de vrai.
Donc je précise que la thérapie de choc avait un goût plutôt libéral.
Oui, bien sûr. Le mot thérapie de choc d'ailleurs va être utilisé donc plus tard pour décrire ce qui va être appliqué en Pologne. Et la réalité, c'est que le programme économique d'Ante Markovitch et l'application des recettes libérales. D'une façon non frontale, mais c'est l'idée que c'est la privatisation contre l'autogestion qui permettrait de sortir le pays de sa crise économique et de rembourser la dette extérieure. L'aspect progressiste de Markovitch, bien sûr, c'est quelque part la volonté de lutter contre les nationalismes étriqués. Quand je dis ça ne veut pas dire que les questions nationales sont seulement des nationalismes. Il y a des vraies questions nationales dans les problèmes de la démocratie. Mais en tout cas, Markovitch était la dernière solution yougoslave qui se présentait, si vous voulez. Alors en même temps, l'aspect contradictoire, c'est que si le gouvernement Markovitch était quelque part une solution yougoslave, en même temps, les privatisations appelaient une bourgeoisie. Or, il n'y avait pas de bourgeoisie yougoslave, mais véritablement l'émergence de bourgeoisies utilisant l'ethnicité pour privatiser en s'appuyant sur leur État républicain qui s'était consolidé. Et donc, les courants qui se sont dits ouverts à l'insertion dans l'Union européenne et la globalisation libérale, ne se sont pas tournés vers Markovitch principalement, et les autres non plus, parce que c'était une thérapie de choc. Donc il n'était ni une solution pour les travailleurs dans un sens socialiste ou protecteur en quelque sorte, ni une solution pour ceux qui voulaient privatiser. C'est pourquoi il était un échec.
Vous avez évoqué le rôle de la communauté internationale, en tout cas du contexte international dans l'éclatement, disons, définitif de la Yougoslavie, avec notamment le rôle de l'Allemagne et du Vatican. Donc l'Allemagne a presque immédiatement reconnu l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie. Comment se fait-il qu'il suffit qu'un pays relativement important fonce tête baissée, disons, pour que le monde entier ou à peu près suive?
En l'occurrence, c'était pas le monde entier. Le plus important, c'était effectivement la communauté européenne.
Ce qu'on appelle en général la communauté internationale, pour faire court, quoi.
Et là, il y avait la construction européenne en particulier, où l'alliance franco-allemande jouait un rôle pivot, où l'Allemagne jouait un rôle pivot. Et elle a imposé sa politique, son choix de politique extérieure. Et finalement, les gouvernements de l'Union, enfin de ce qui allait devenir l'Union européenne, donc de la communauté économique européenne, ont préféré faire front et présenter une pseudo-face commune plutôt que de se préoccupé de l'effet de cette action qui a mis de l'huile sur le feu. Je ne dis pas que c'est la cause de l'éclatement yougoslave, mais ça l'a encouragé. Certains commentateurs ont trouvé une espèce d'alibi dans cette erreur catastrophique. Cet alibi, c'était de dire que, enfin, cette explication, on y croit, on n'y croit pas, c'était honnête ou pas honnête, mais c'était de dire que de reconnaître l'indépendance, ça empêcherait la guerre, parce que ce serait placer Belgrade notamment et l'armée yougoslave devant une situation où désormais les États étant indépendants, ce serait une intervention extérieure et non pas une intervention interne à un État. Bon, en tout cas, on peut avoir l'interprétation qu'on veut, c'était manifestement au moins une erreur et une erreur catastrophique.
Oui, effectivement, on connaît la suite, puisque la suite, ça a été une dizaine d'années de guerre qui va et qui vient et qui se déplace dans diverses régions de ce qu'on appelle maintenant l'ex-Yougoslavie. Ces guerres étaient menées par l'OTAN, dans laquelle de nombreux observateurs et citoyens voient le bras armé principalement des États-Unis. Et ça évoque pour beaucoup de personnes l'idée d'un complot, entre guillemets, des États-Unis, c'est-à-dire que ce serait une guerre ou une série de guerre de la mondialisation, une guerre menée par les États-Unis, planifiée même par les États-Unis, pour faire entrer, entre autres pour l'exemple, un pays un peu rétif à cette mondialisation libérale dans le rang des bons élèves. C'est notamment la thèse soutenue par Susan George dans un livre qu'elle a écrit. Vous n'avez pas l'air convaincu par cette thèse.
C'est-à-dire qu'il y a un élément de vrai dans la thèse, bien sûr, que je partage dans cette interprétation, qui est la partie finale. Donc les États-Unis ont exploité, non seulement vers leurs intérêts géostratégiques dans le monde musulman, la crise bosniaque, mais ils ont aussi exploité la crise bosniaque, puis celle du Kosovo. Pour semer la zizanie dans la construction européenne et essayer de faire entrer la construction européenne dans le cadre atlantique. Et ils ont exploité les impasses des gestions de paix, entre guillemets, des plans de paix de l'ONU et de l'Union européenne en Bosnie, puis à Rambouillet, pour faire avancer leurs intérêts géostratégiques. C'est là, évidemment, que je rejoins Suzanne Georges. Et la dénonciation de l'hypocrisie de l'intervention de l'OTAN au Kosovo, qui n'était ni une intervention pour protéger des vies humaines, puisqu'ils n'ont protégé que les soldats de l'OTAN, ni une intervention pour protéger des droits d'autodétermination des Albanais du Kosovo, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, où sur la base d'une évolution de la situation concrète, disons ce qui était présenté comme les victimes que l'on défendait et dont on défendait les droits, à savoir les Albanais, sont aujourd'hui, disons, traités d'une façon un peu moins ouverte, disons, avec la volonté d'un contrôle géostratégique, je dirais, des Balkans, où le protectorat au Kosovo, la présence de l'OTAN en Hongrie et et en Albanie sont des éléments décisifs et beaucoup plus que des droits, des libertés accordées aux Albanais ou des choses de ce genre-là. Alors, on a mis en avant, pour légitimer l'intervention de l'OTAN, un grand méchant absolu qui était Milosevic. Et alors là, ce que je ne partage pas dans certaines interprétations d'une partie de la gauche, c'est l'idée que l'intervention contre Milosevic serait liée au fait que Milosevic résistait d'une façon progressiste à la mondialisation libérale et à l'OTAN. Je pense que c'est faire peu de cas des différentes phases du conflit. Milosevic, avant 89, était totalement partisan des privatisations. Il s'en est d'ailleurs mis plein les poches, ainsi que sa famille, par un clientélisme qui n'a pas grand-chose de socialisme et qui fait qu'il a été fort peu populaire dans la classe ouvrière serbe qui n'a pas voté pour lui. Deuxièmement, Milosevic n'est pas un nationaliste, d'un homme de pouvoir qui a à la fois joué de la continuité partielle avec le titisme au niveau de ce qu'il y avait de pire, peut-être, pas de ce qu'il y avait de meilleur, mais aussi d'un emprunt aux nationalistes d'extrême droite de tradition anticommuniste et antititiste avec lesquels il s'est allié, notamment le parti radical de Chichel. Et que la gauche occidentale, au nom de l'anti-américanisme et de l'anti-OTAN, que je partage, fasse l'économie d'une critique d'une alliance avec l'extrême droite et avec donc des politiques ne relevant absolument ni du titisme ni d'une fraternité entre les peuples et d'un droit égal entre les peuples, mais d'une relation d'oppression. Bon, c'est, je pense, être borgne. Donc je pense qu'il y a une hypocrisie du discours occidental et que la gauche, une vraie gauche, aurait dû mettre en avant la nécessité dans la crise yougoslave d'un règlement égalitaire des questions nationales imbriquées extrêmement complexes, sans avoir de solution toute faite dans sa poche, et par conséquent, en considérant que la meilleure des solutions, c'est une solution trouvée par consensus par les intéressés. Les intéressés, c'est ni l'OTAN, ni les gouvernements de l'Union européenne, ni un quelconque individu extérieur à ce conflit, mais les populations concernées.
On voit que votre position est celle du nini, comme vous l'appelez vous-même, c'est-à-dire ni l'OTAN ni Milosevic. On a assisté dans le monde médiatique et intellectuel et politique aussi à un manichéisme, disons, typiquement guerrier, c'est-à-dire que soit on soutient l'OTAN, si on ne soutient pas l'OTAN, on soutient automatiquement Milosevic. Et le nini, comme vous dites, est une position qui, en tout cas chez nous, a été très difficile à soutenir. Qu'est-ce qui en a été en France, dans votre expérience?
C'est évidemment très difficile à soutenir pour de bonnes raisons. D'abord, parce que le nini a l'air de dire qu'il y a une symétrie. Alors, ceux qui considèrent que le responsable central de la question du Kosovo, c'est Milosevic, disent l'OTAN n'est pas responsable de la répression au Kosovo, l'OTAN ne vient qu'après, et donc ils refusent cette symétrie. Et puis de l'autre côté, c'est la même chose. Et ceux qui mettent le doigt à juste titre sur les intérêts géostratégiques des États-Unis et de l'OTAN disent c'est ridicule de pouvoir mettre un quelconque signe d'égalité entre un tout petit pouvoir qui est celui de Milosevic, qui a d'ailleurs commis un certain nombre de misères et de politiques réactionnaires, mais qui n'a rien d'un Hitler et qui ne menace pas l'Europe. Et puis l'OTAN de l'autre côté, qui est une très grande puissance et par rapport à laquelle en plus nous, en tant que citoyens de l'Occident, nous sommes concernés et par conséquent que nous devons dénoncer. Mais je pense que nous ne sommes pas simplement, enfin personnellement, je ne me perçois pas simplement comme citoyen avec le mot vague, le caractère vague de ce mot-là, mais je pense qu'il y a la politique existe, des intérêts sociaux existent, et je crois qu'un des problèmes majeurs du conflit yougoslave et de la situation dans laquelle on se trouve, c'est la crise des valeurs, des étiquettes, le brouillage, et que je crois qu'il est de notre responsabilité, et surtout pour ceux qui se revendiquent de la gauche, d'aller voir derrière les étiquettes et de défendre des valeurs, effectivement. Et je pense que c'est catastrophique au nom de la lutte contre l'OTAN et contre l'impérialisme, d'atténuer La responsabilité qu'il y a eu dans l'engrenage des politiques de nettoyage ethnique, je ne dis pas de purification ethnique, c'est un nettoyage ethnique de territoire pour construire des États élargis et en vider les populations de la communauté minoritaire. Ces politiques-là sont des politiques qu'on ne doit pas accepter et qu'une gauche digne de ce nom ne doit pas accepter. C'est un conflit qui a donc. Et ce sont des problèmes qui m'ont mobilisé personnellement dès le début de la crise yougoslave. Et je crois que c'est très très important sur ce plan-là de ne pas accepter les faux dilemmes. Et d'ailleurs, la population serbe, d'une certaine façon, ne les a pas acceptés. Koštunica a été élu, non pas contrairement à ce qui a été dit dans un certain nombre de textes sur Internet, simplement par l'argent de l'Occident. L'argent de l'Occident, il a été destiné massivement, et surtout celui des États-Unis, à soutenir Djindjic, du point de vue des politiques économiques, du point de vue de l'orientation et de l'obéissance aux intérêts géostratégiques américains, c'est Djindjic. Mais je pense que s'il y a eu un vote massif pour Koštunica, c'est parce qu'il est apparu, et à juste titre, comme étant corrompu ni par le régime Milosevic, ni par l'OTAN, et parce qu'il a dénoncé à la fois la politique de Milosevic, pas forcément d'ailleurs de la façon dont moi je l'aurais dénoncé, hein, c'est aussi tout un débat, et en même temps les bombardements de l'OTAN et l'action politiste du TPI comme soutien en fait de la politique des États-Unis et de l'OTAN. Et ça plaît pas aux États-Unis, ils n'ont pas payé pour ça, ils sont pas contents de ça.
Pour terminer, il y a 10 ans que ça dure, mais apparemment c'est toujours pas fini puisque on craint une nouvelle ressucée en Macédoine cette fois. Comment est-ce que vous pensez que ça peut évoluer et comment est-ce qu'on va en sortir un jour?
Écoutez, je suis pas très très optimiste. Enfin, l'élément d'optimisme, c'est quand même que bon, dans la situation de la Macédoine, la politique de Gligorov à l'époque, enfin, c'est-à-dire le premier président dans le cadre des élections libres dans les années 90, a été assez différente de celle de Milosevic, a essayé d'associer les Albanais de Macédoine et certains de leurs partis au gouvernement, par exemple au Parlement, etc. Bon, enfin, c'était des mesures très limitées. Il n'en demeure pas moins que la revendication principale, telle qu'on la connaît, qui s'est exprimée par les principaux partis albanais de Macédoine et d'ailleurs d'Albanie et du Kosovo, n'est pas l'éclatement de la Macédoine, mais la transformation de la Macédoine dans le sens d'une égalité de statut et d'un État multinational. C'est-à-dire qu'il combine une citoyenneté dans un même État avec la reconnaissance en face des Slaves macédoniens, d'une communauté albanaise qui doit être considérée comme une communauté constituante. Et entre parenthèses, je pense que c'est une revendication tout à fait symétrique de celle que avaient les Serbes de Croatie quand ils revendiquaient de garder justement ce statut de communauté constituante, peuple constituant de la Croatie, ce qu'a supprimé Tudjman. Je pense également que au Kosovo, une solution progressiste et de paix serait d'imposer le retour des Serbes qui ont subi un nettoyage ethnique à rebours dans le cadre du Kosovo après l'intervention de l'OTAN et en présence des forces de l'OTAN, donc permettre le retour des Serbes et consolider une constitution du Kosovo. Qui permettent un autogouvernement du Kosovo, alors qui se lie à la Serbie, au Monténégro, à l'Albanie, etc., tout ce qu'on voudra, mais qui permettent aux différentes communautés, c'est-à-dire aux Serbes, même s'ils sont minoritaires, et aux Albanais, d'être reconnus pleinement comme peuple constituant du Kosovo. Eh bien, c'est la même chose en Macédoine. Et c'est une revendication qui est portée par la majorité des partis albanais. Donc, c'est le petit élément d'optimisme. Alors, je crois que le problème, c'est que les pouvoirs de la Macédoine et les gouvernements occidentaux, en traitant l'UÇK de Macédoine simplement comme des terroristes, et en accentuant la répression, risque de provoquer des engrenages irréversibles d'éclatement et pousser à une radicalisation de la population albanaise du Macédoine en solidarité avec l'UÇK. C'était la stratégie que l'UÇK avait eue au Kosovo, une stratégie de tension, mais qui, si on y répond, effectivement provoque une solidarité envers la population victime de la répression. Parce que pourquoi cette espèce de cristallisation derrière l'UÇK pourrait se faire? Parce que la question albanaise de Macédoine n'est pas totalement résolue, de même qu'hier, la question albanaise du Kosovo ne l'était pas. Et donc, je pense qu'on a une situation qui est effectivement grave. Et alors, entre parenthèses, c'est un fiasco total pour l'OTAN et pour les gouvernements européens. Loin d'avoir stabilisé la région, leur intervention a donné d'ailleurs l'illusion aux Albanais du Kosovo ou de Macédoine qu'ils pourraient reproduire le même scénario en Macédoine, hein, avec le soutien de l'OTAN, ce en quoi ils se trompent. Bon. Mais en tout cas, ça leur a créé cette illusion-là. Autre élément qui est frappant aussi, c'est le fait que l'armée yougoslave, qui était dénoncée hier comme génocidaire au Kosovo pour légitimer l'intervention de l'OTAN, est une armée à laquelle on fait appel pour essayer de stabiliser la situation dans la région de Preševo, qui est la zone limitrophe du Kosovo, qui est également très tendue. Bon, donc de façon générale, on peut aussi dire que si Milosevic a certainement des responsabilités majeures dans la crise yougoslave, elles étaient partagées et il n'était pas la cause unique de cette crise ni des guerres. Et la preuve en est que la disparition de Milosevic n'a pas supprimé un processus de désagrégation qui se continue et une non-résolution des questions fondamentales, notamment questions albanaises dans cet espace-là, mais aussi celle du Monténégro sur le plan na national. Et finalement, je dirais que la responsabilité des... Enfin, c'est un échec pour l'Union européenne, à la fois politique, militaire et socio-économique. Politique, parce que la façon de gérer au cas par cas, dans le désordre et en reconnaissant de façon accélérer, prématurer les États indépendants sans que les questions nationales imbriquées soient résolues, ça a été de l'huile sur le feu. Pyromane, pompier. Ensuite, l'Union européenne essaye de mettre en place un pacte de stabilité, de faire des accords de paix, etc. Mais en même temps, dernier élément, le pyromane pompier, ni par l'intervention de l'OTAN, ni par les privatisations, ne stabilise la région. Les privatisations continuant à pousser au chacun pour soi et non pas une logique solidaire. Et l'Union européenne, en plus, n'a pas le budget pour atténuer les écarts de développement entre les pays du sud de l'Europe et du sud de l'Union européenne et les pays comme l'Allemagne les plus développés. Et donc aujourd'hui, on assiste à des combats internes, à des confrontations, à un échec interne considérable sur les questions de l'élargissement vers l'Est et donc aussi de l'argent nécessaire pour stabiliser les Balkans et les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne. Il n'y a pas l'argent pour ça, il n'y a pas de plan Marshall, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et il n'y a pas non plus la logique économique qui permette de stabiliser la région. Donc, je pense que c'est un fiasco dont l'ensemble des citoyens de l'Union européenne devraient tirer le bilan en toute transparence. Et je pense que c'est dans le développement de mouvements par en bas, et de liens par en bas, syndical, associatif, politique, et la reconstitution d'une autre gauche, je dirais, à l'échelle européenne, qu'on pourra peut-être voir la sortie du tunnel.
Et voilà pour cette semaine. L'unique chanson que vous avez entendue entre les deux interviews était interprétée par Diabologum. Ça s'appelait L'art est dans la rue et c'est sur l'album Le goût du jour. Je vous rappelle la rediffusion de cette émission qui aura lieu vendredi à 14h. Je vous rappelle également l'adresse internet de l'émission www.multimania.com/alterecho en un seul mot et avec CH. Voilà, à la semaine prochaine.